sur Beurre FM.
Beurre FM. Beurre FM. Il est minuit. Beurre FM, la rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Il aurait pu être radiologue, cardiologue et pneumologue, mais il a choisi d'être médecin généraliste. Avec nous aujourd'hui, le docteur Walid Mekedem. Comment ça va?
Ça va, Philippe, et vous?
Ça va bien, ça fait plaisir de vous voir, Walid.
Pareil pour moi, toujours un plaisir de venir ici.
Il y a eu une période un petit peu de... Voilà, qui a été dure. Mais bon, ça fait plaisir de vous voir. C'est vrai que vous nous avez beaucoup manqué pendant le mois du Ramadan. Et vous avez beaucoup manqué aux auditeurs de Beurre FM.
Moi, j'étais fort occupé.
Voilà, bien. Mais bon, on en reparlera et c'est pas le sujet de l'émission. Walid Mekedem, vous êtes alors médecin généraliste, installé à Paris maintenant.
Exactement.
Voilà. Alors, quand on est installé, c'est installé en vrai. Hein.
Oui, installé Paris. Paris, cœur de Paris. Paris du côté de République.
Parce qu'on vous avait connu dans un cabinet.
Bah, j'ai changé. Hein. Ça, ce sera le sujet d'une vidéo, si vous voulez, Philippe. Pourquoi j'ai changé? Pourquoi je suis passé du centre de santé, que les Parisiens connaissent bien, à l'installation à mon compte en cabinet libéral? Ah, ça, c'est tout un sujet. Hein. Ça peut intéresser. Je ne sais pas si ça peut intéresser les auditeurs, mais en tout cas, le switch, pourquoi il s'est fait, comment il s'est fait. Ça a été une grosse période, pas très simple, mais je pourrai en parler un jour.
Voilà. Donc maintenant, vous avez pignon sur rue, pas très loin de la gare du Nord.
Ouais, voilà, Paris.
Du boulevard Magenta, donc pour République, voilà, c'est central, comme on dit.
Exactement.
Pas facile de se garer, mais c'est bien desservi par les métros.
Oh, bah, est-ce que vous prenez la voiture, Philippe?
Bah, n'importe quoi.
Ah, moi non plus, je prends pas la voiture.
Moi, je prends
le
vélo.
Voilà, exactement. Vélo, métro, bus, à pied. Voilà. C'est mieux.
Mais beaucoup se déplacent en voiture encore, hein, donc, ouais.
Je comprends pas, hein. Par exemple, Paris de boulevard Magenta.
Dans ce quartier-là, c'est compliqué.
C'est mort.
C'est impossible.
Impossible.
Non, ça,
impossible.
C'est.
Impossible.
C'est fini. Il faut prendre une journée.
Carrément, en plus, il y a des travaux partout, ça bouchonne, c'est. Non, c'est compliqué.
On parlait de la spécialité que vous n'avez pas choisie, radiologue, cardiologue, pneumologue. Est-ce que vous regrettez parfois d'avoir choisi d'être médecin généraliste?
Franchement, c'est une bonne question. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? À vrai dire, j'ai pas de réponse. C'est vrai qu'il y a des spécialités qui m'attirent sur certains aspects, mais quand je me dis, est-ce que j'aurais pu faire ça sur le long terme? Je pense que non. Non.
Et radiologue?
Non, franchement, je regrette pas trop mon choix, sachant qu'aujourd'hui, je me rends compte, plus le temps passe, qu'en fait, ça me laisse vachement de souplesse pour adapter mon exercice. La médecine générale, c'est vraiment bien. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont des enfants qui veulent faire médecine, voilà, vous pouvez leur dire de faire médecin généraliste et vous verrez qu'en fait, avec le temps, ils pourront changer, adapter, se focaliser plus sur certains aspects, avoir des exercices, que ce soit à leur compte ou que ce soit à l'hôpital ou que ce soit dans des centres spécialisés. Il y a vraiment pas mal de possibilités quand on est médecin généraliste.
Mais il n'y a pas une forme de solitude dans l'exercice de la médecine généraliste?
Bah en fait, c'est dans l'exercice de la médecine tout court. Hein. C'est-à-dire, quand vous êtes médecin, et si on va parler des médecins qui sont à leur compte, bah voilà, vous tenez la boutique, entre guillemets, vous gérez tout. Et même s'il y a des collègues, entre guillemets, pas très loin, toute la journée, vous les voyez pas. Hein. Vous voyez les patients uniquement, la charge mentale qui s'associe justement au travail, le soir, la gestion de votre cabinet, des trucs qui vont pas, de la comptabilité, de tout ça. Donc, c'est un exercice, oui, qui est pas simple. C'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre avec la vie à côté, la vie de famille, les loisirs. Voilà, on n'est pas des robots.
Bien, et vous partagez du contenu médical sur votre chaîne YouTube, bientôt 150 000 abonnés.
Exactement,
Wade.
Donc bah, j'invite les gens à s'abonner à la chaîne si le contenu médical les intéresse.
Voilà, souvent très simple, c'est simple, hein.
Ouais,
c'est vraiment
non, on n'est pas
tout niveau, voilà, c'est très intéressant.
Pas très compliqué.
Bien, nous allons évoquer, Walid, aujourd'hui des motifs de consultation fréquents, avec des pathologies qu'on croyait oubliées, mais qui sont vraiment super fréquentes. La première, c'est l'arthrose.
Alors, l'arthrose. Je pense pas que c'est oublié, hein.
Non, l'arthrose, non. Mais je me rappelle quand je vous avais proposé de faire un sujet sur l'arthrose il y a longtemps, vous n'étiez pas super convaincu, hein.
Ah bah je me souviens même plus de la proposition.
Il a
une super bonne mémoire
Non. Et il a fallu qu'on ait une émission qui cartonne sur l'arthrose. Je sais pas, la fille, elle a fait 5 ou 600 000. On me dit, ah oui, finalement, c'est des sujets qui marchent, ça. Et vous l'avez fait après, c'était soigner l'arthrose naturellement.
Ouais. Voyez, de mon côté, ça a bien marché, l'arthrose. Ouais.
Et c'est surprenant parce que c'est des sujets, bon, on a l'impression que c'est, voilà, que c'est pas grave, que ça concerne personne, et ça cartonne.
Bah ça concerne du monde, hein, et c'est invalidant, et surtout, bah ça dure dans le temps.
L'arthrose en consultation, ça présente...
C'est beaucoup, hein.
Ouais.
Arrivé à un certain âge, l'arthrose, quand même, ça concerne du monde. Et puis, c'est très polymorphe, hein. C'est-à-dire que l'arthrose, déjà, ça peut concerner, bah, toutes les articulations, finalement. Donc, il y en a qui vont avoir mal à l'épaule, il y en a, ça va être la hanche, il y en a, ça va être le genou. Et après.
Les cervicales.
Les cervicales, bien sûr. Et ça va être à des degrés différents. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont être peu gênés, ceux chez qui ça va être très ponctuel, occasionnel. Ah, je fais une poussée d'arthrose. Et il y en a pour qui c'est la douleur chronique, la douleur de fond qui les handicape au quotidien.
Alors, on peut confondre parfois avec l'arthrite.
Exactement.
C'est l'arthrite. Même,
En fait, c'est un mot générique, arthrite. Ça veut dire arthrite, c'est une inflammation au niveau de l'articulation. Donc, elle peut être liée, en fait, à l'arthrose. Mais quand on parle d'arthrite dans le jargon, on parle plutôt des maladies inflammatoires des articulations. On aura peut-être l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais c'est des maladies à part entière.
L'arthrose, c'est ce qu'on appelle une maladie chronique.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on n'en guérit pas.
On ne guérit pas de l'arthrose. Donc, s'il y a des gens qui cherchent la solution miracle pour guérir de l'arthrose, bah, ça n'existe pas. L'arthrose, bon, voilà, c'est, si on veut parler de manière très simple, c'est finalement une usure de l'articulation qui arrive pour plein de facteurs, hein. C'est-à-dire, c'est un ensemble de facteurs. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. La famille, la génétique, le poids, le travail qu'on fait.
Mais est-ce qu'on sait pourquoi nos articulations s'usent, en fait?
Bah, comme je l'ai dit, c'est multifactoriel. C'est-à-dire, il n'y a pas une règle. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent favoriser. Par exemple, si vous êtes obèse, l'arthrose au niveau des hanches et du genou, voilà, vous allez être plus sujet peut-être à en faire. Pareil pour l'hérédité. Si vous avez dans votre famille toutes vos tantes et vos oncles qui sont atteints d'arthrose, bon, il y a des chances pour que ça vous touche. Mais après, du coup, bah, c'est un ensemble. Comme j'ai dit, il y a l'hérédité, il y a le poids, il y a le mode de vie, il y a l'emploi que vous faites. Si vous avez un emploi, voilà, de charge, etc., de mouvements répétés, tout ça, ça peut jouer. Et donc, bah, finalement, c'est un ensemble. Mais là où les choses vont différer, c'est qu'en fait, on peut avoir de l'arthrose et pas être gêné. Donc, c'est ça le grand problème d'arthrose. C'est qu'il y a des gens qui ont de l'arthrose, et déjà, il y a des gens qui ont un petit peu d'arthrose et qui sont très gênés. Et à l'inverse, il y a des gens, si on fait une radio, on se dit, ah bah, l'articulation n'est pas en très bon état, et pourtant, zéro douleur.
Ouais. Donc, ça veut dire que c'est pas l'étendue de la lésion qui fait la douleur.
Si je devais dire une phrase médicale, mais je vais la traduire, c'est en arthrose, il n'y a pas de corrélation radio-clinique. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien entre l'image et les symptômes. On peut avoir une articulation très abîmée à l'image et finalement quelqu'un qui n'est pas gêné. Donc, l'arthrose, la douleur liée à l'arthrose, c'est vraiment lié à d'autres facteurs que simplement ce qu'on voit directement.
Quelle est la façon de poser le diagnostic? Est-ce que c'est forcément la radio?
Oui, bah, c'est-à-dire qu'après, bon, l'arthrose, ça reste quand même un diagnostic clinique, enfin clinique dans le sens où la personne va se présenter, elle va dire j'ai mal de telle manière, à tel endroit. On élimine quand même les autres possibilités, mais oui, il faut confirmer, on confirme, hein, on peut pas dire comme ça, vous avez de l'arthrose, j'en suis sûr à 4000%. On fait une radio, c'est très simple, la radio confirme le diagnostic.
Est-ce que c'est les articulations, hein, parce que ça peut toucher pas mal l'articulation, notamment les doigts, les genoux, est-ce qu'il y a quelque chose d'apparent? Est-ce qu'on voit quelque chose?
Sur la radio?
Non, justement pas sur la radio. Est-ce que par exemple, en montrant vos mains, on pourrait voir une déformation?
Exactement.
Ou quelque chose?
Très bonne question. Donc, c'est pas sur toutes les articulations. Mais par exemple, là, vous avez parlé des mains.
Oui.
Et c'est vrai que l'arthrose au niveau des doigts, quand elle est évoluée, ça se voit et on a le bout des doigts qui sont déformés, qui partent un petit peu...
Tordus.
Voilà, tordus. Oui. Mais à pas confondre avec d'autres maladies déformantes. Il y a par exemple la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie inflammatoire, donc c'est vraiment une maladie qui peut toucher même les organes et tout, qui va déformer avec le temps les mains, s'il n'y a pas justement de traitement, mais en fait ça va déformer tout, hein, que ce soit ici, on va avoir les doigts qui partent comme ça sur les côtés.
Alors, il faut expliquer parce qu'on fait de la radio. Alors, la radio,
En gros, la jonction entre la main et les doigts, ça peut être déformé à ce niveau-là. Pareil pour les doigts, au milieu des doigts, ça peut être déformé. Alors que l'arthrose, c'est vraiment le dernier morceau souvent qui part en cacahuète.
C'est le bout du doigt qui vraiment va faire
Souvent, l'arthrose des doigts, c'est le bout des doigts. Ouais. Et si on a une autre partie du doigt de la main qui est déformée, souvent, c'est pas de l'arthrose. Voilà. Après, pour les grosses articulations, si vous me dites, est-ce que ça se voit? Bah, pour un genou.
Le genou, par exemple, est-ce qu'on a un genou qui est enflé, qui est rouge?
Alors, bonne question. Bah, de manière chronique, non. c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'arthrose, voilà, on va pas se voir, mais quelqu'un qui fait une poussée d'arthrose, c'est-à-dire il a son arthrose et d'un seul coup c'est la tempête pour X raisons, ça se réveille, ça fait très mal, et bien là il va faire une poussée d'arthrose, bah là ça va devenir chaud, ça va gonfler, ça va être douloureux, il peut y avoir du liquide à l'intérieur, donc on va toucher un peu le genou, on va toucher la rotule, ça va s'enfoncer comme un glaçon dans l'eau, donc là on se dit il y a une poussée inflammatoire. Après la question c'est de savoir est-ce que c'est à cause de l'arthrose, est-ce que c'est pas autre chose.
Ouais. D'accord, là après on élimine, c'est ça?
Bah après voilà, il faut faire, il faut regarder le contexte. Est-ce qu'il fait de la fièvre? Ah bah s'il fait de la fièvre, potentiellement c'est pas de l'arthrose, ça peut être une arthrite septique, une infection. Voilà, est-ce que du coup, il faut faire la radio. Donc ça, si à la radio on voit qu'effectivement le genou est bien abîmé, qu'il y a de l'arthrose, on se dit c'est compatible. Mais il faut éliminer d'autres maladies comme la goutte, la chondrocalcinose, comme j'ai dit de l'arthrite septique. En fait, il y a plein de choses qui peuvent donner un genou chaud, gonflé et douloureux.
Qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui fonctionne comme traitement pour prendre en charge la douleur de l'arthrose?
Alors, bah, ce qui marche le mieux, mais il faut le manier avec précaution, c'est les anti-inflammatoires. Il n'y a pas 4000 traitements ultra efficaces. L'arthrose, quand ça évolue par poussée, que ça fait très mal, il faut s'imaginer que c'est le feu, en fait, dans l'articulation. Bah, le feu, il faut l'éteindre. Donc, si on devait parler d'un médicament, en général, c'est les anti-inflammatoires. Mais les anti-inflammatoires, il faut les prendre de manière courte. Voilà, pas prolongé parce que c'est pas bon pour les reins, pour l'estomac, ça peut jouer sur la tension, ça dépend un petit peu de vos traitements que vous prenez, est-ce que vous pouvez prendre des anti-inflammatoires. Donc c'est compliqué, mais s'il n'y a pas de contre-indication et qu'on les prend, c'est plutôt efficace. Parfois, quand on peut pas mettre d'anti-inflammatoires classiques comme ibuprofène, kétoprofène, naproxène, etc., on peut mettre un peu plus costaud. C'est une autre famille d'anti-inflammatoires, les gens connaissent sûrement, c'est les corticoïdes. Là, ça tape fort, mais... voilà, c'est pas pour tout le monde. C'est quand vraiment on est un petit peu coincé, qu'on peut pas mettre d'anti-inflammatoire.
Parce que là, on parle d'une maladie chronique, donc.
C'est vrai, les nuances. Ouais. Là, j'ai parlé de la crise. Sur le traitement de fond, bonne question. Comment on traite de manière durable l'arthrose? Bah là, c'est sans médicaments, en fait. C'est-à-dire que l'arthrose, soulager les douleurs, bah, ça va être, comme j'ai dit, la perte de poids, si on est un peu trop costaud. Et puis, bon, il y a certaines personnes aussi qui disent que le poids en lui-même, ça génère une inflammation dans le corps qui peut donner aussi des douleurs d'arthrose, même dans des articulations qui sont pas portantes. C'est-à-dire l'épaule et tout ça. Donc, bon, le poids, faut jouer dessus. Mais il faut faire beaucoup d'exercices physiques, il faut renforcer ses membres.
Alors, paradoxalement, quand on a des douleurs d'arthrose, quand on a des douleurs au genou, quand on a des douleurs à la hanche, quand on a des. On n'a pas du tout envie de se bouger.
C'est le serpent qui se mord la queue, c'est vrai. Mais en fait, après, si on ne bouge plus du tout, ça va être pire. C'est-à-dire, on va avoir de plus en plus mal, on va prendre de plus en plus de poids, on va avoir aussi. Ouh là là, je pourrais dire que l'arthrose, ça peut être un facteur de risque de maladie plus grave. Parce qu'en fait, avec l'arthrose, la douleur, on se limite, on ne fait plus d'efforts. On fait plus d'efforts, on va augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension, etc. Donc non, il faut se dire oui, j'ai un peu mal, il faut que je trouve une activité qui va pas être douloureuse, et tout doucement je débloque certains niveaux, et au fur et à mesure tac 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 tac, et après je finis à faire un Ironman ou du crossfit de manière très intense. Pourquoi pas, ça peut être un objectif.
Bien, on sait ce que vous faites après, une fois que vous avez fini vos consultations. Docteur Walid Mekedem, vous êtes notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec le docteur Walid Mekedem qui est avec nous, médecin généraliste à Paris. Vous consultez sa chaîne YouTube avec beaucoup de conseils, bientôt 150 000 abonnés et ça monte, Walid. On parle de motifs de consultation fréquents avec vous aujourd'hui, on est en train de parler d'arthrose et de la façon de la prendre en charge. Le sport, encore une fois, ça reste...
Top. Le sport, un des meilleurs médicaments, meilleurs traitements, que ce soit pour l'arthrose ou pour plein d'autres problèmes de santé. Alors oui, des fois, on va dire, oui, les docteurs, j'ai mal, je peux pas trop bouger. Mais non, il faut débloquer. J'ai dit, il faut débloquer étape par étape, trouver une activité douce qui vous correspond, faire de l'activité, y prendre plaisir, et tout doucement, que ça devienne une habitude et que vous continuez justement à vous renforcer musculairement.
Quels sont les sports conseillés en cas d'arthrose? Alors c'est du genou, on va peut-être pas faire du footing.
Souvent on dit le sport conseillé. Des fois il y a des clichés comme la natation, etc. Mais en fait le meilleur sport conseillé, ce serait celui qui vous fait plaisir. En fait il faut trouver un sport où vous dites c'est pas une corvée d'y aller, et puis je suis pas en souffrance non plus. Donc si vous arrivez à un sport qui justement n'est pas un calvaire, qui vous fait pas trop mal et avec lequel vous arrivez à avoir une routine, une habitude, allez-y. Et tout doucement, avec le temps, vous changerez, vous switcherez, mais faut faire du sport, faut faire de l'activité.
Est-ce qu'il vous arrive en tant que médecin généraliste de prescrire du sport ?
Bonne question. On peut prescrire de l'activité physique adaptée, mais c'est assez récent. Et
c'est 2-3 ans hein, de mémoire, on peut prescrire. Les médecins peuvent prescrire de l'activité.
Prescrire, ouais. Mais à condition qu'il y ait un endroit où on puisse aller avec sa prescription et dire voilà, j'ai une prescription d'activité physique adaptée.
Donc alors, que ce soit
ça, c'est pas très répandu.
Un centre pris en charge, agréé.
Et ça, c'est pas très répandu. J'y connais pas grand chose, c'est vrai, parce qu'en fait, où ça ? Où il y a des centres comme ça ? Moi, personnellement, je ne sais pas. Donc, je vais essayer de me renseigner sur le sujet.
Il y a quelques centres qui sont pris en charge par les mutuelles, mais c'est assez cher. En fait, mais il faut avoir une bonne mutuelle en plus, hein, donc.
Ouais. Donc bon, certes ça existe, c'est bien, mais je pense que si on n'a pas d'autres gros problèmes de santé à part son arthrose, on peut se dire bon allez, j'y vais tranquille, je fais du sport comme j'en ai envie et on voit.
Alors, ce qui se développe de plus en plus, ce sont les traitements de l'arthrose par injection.
Ouais.
Alors.
Bon, ça date, hein.
Oui, ça date, mais bon, c'est de, enfin, en tout cas avec les réseaux sociaux, on en parle de plus en plus. Mmh. Bon, déjà, est-ce que ce sont est-ce qu'il y a des résultats avec ces injections ?
Alors, oui, mais ça, comme déjà, faut retenir que ça guérit pas. C'est temporaire l'efficacité. Donc, c'est une efficacité. Enfin, le but recherché, c'est de soulager la douleur. C'est pas de guérir l'arthrose.
Alors, il y a plusieurs types d'injections d'ailleurs.
Il y a deux grands types d'injections. Alors, on va avoir les injections de corticoïdes, de produits corticoïdes. Pas souvent, par exemple, dans le genou, mais ça peut être l'épaule, etc. Ça va permettre souvent de calmer un genou très douloureux en phase inflammatoire. Donc, si par exemple, vraiment, vous êtes sur une période très douloureuse, un peu en poussée, bon, le corticoïde injecté va permettre de calmer, de soulager cette inflammation et va avoir un effet qui va durer quelques mois. Et on peut répéter de temps en temps l'injection, mais pas plus que ouais, ça reste limité, quoi. Par exemple, pour un genou, on fera rarement plus de 2 injections dans l'année. Après, il y a un autre produit qu'on peut injecter, c'est de l'acide hyaluronique.
Alors, donc, on connaît ce mot-là, parce que c'est utilisé en médecine de la beauté.
Exactement. Mais du coup, en fait, là, c'est juste un lubrifiant, donc, qu'on va injecter au niveau du genou, par exemple, qui va avoir une efficacité en général qui dure plus longtemps que le corticoïde. Mais c'est-à-dire que lui, il est injecté, l'acide hyaluronique, on va dire, en phase froide. C'est-à-dire, vous savez que vous avez de l'arthrose, que vous avez des douleurs un petit peu chroniques, invalidantes, mais ça va, vous n'êtes pas non plus vraiment en poussée. Et on dit, bon, allez, on va tester, on injecte l'acide hyaluronique. Et si c'est efficace, en général, ça va être efficace sur une durée de plusieurs mois. Ça peut aller jusqu'à 9 mois, par exemple. Et puis voilà, et on voit. Mais après, c'est très personne dépendant. Il y a des personnes qui vont se faire injecter, qui vont dire, moi, ça me fait rien du tout. Il y en a, ils vont dire, c'est très efficace. Donc voilà, après, entre corticoïdes et acide hyaluronique, bah, ça dépend vraiment du cas. Voilà,
est-ce que alors après, je ne sais pas si il y a d'autres injections, hein, les injections de plasma riches en plaquettes, hein, les fameux PRP. Est-ce qu'on a du recul sur ces injections ou pas ?
Bah, les injections de PRP pour le genou, les articulations comme ça, c'est plutôt en médecine du sport, par exemple, quand on va avoir des lésions, des blessures. Donc ça va permettre plus de soulager dans ce genre d'indication. Mais pour l'arthrose, vraiment, on reste sur soit corticoïdes, soit acide hyaluronique, sachant que voilà, ils n'ont pas la même durée d'efficacité, mais ils sont pas prescrits dans la même indication vraiment. Ça dépend de votre clinique, c'est-à-dire de vos symptômes.
À quel moment on conseille l'opération ?
Bah, à partir du handicap, on va dire. Si vous considérez que votre arthrose est un handicap au quotidien, que les traitements médicamenteux ne sont pas efficaces, que les traitements non médicamenteux ne sont pas efficaces, et que vraiment c'est un calvaire, eh ben, c'est là que se pose la question de la chirurgie. Et comme j'ai dit, ça dépend pas de la radio. Hein, vous pouvez avoir un genou pas trop abîmé à la radio, vous pouvez vous faire opérer. Si vraiment, voilà, vous êtes tout le temps poussé, vous n'arrivez plus à travailler, vous surconsommez des anti-inflammatoires. Bah non, au bout d'un moment, il faut trouver une solution.
Et là, à ce moment-là, c'est on remplace l'articulation par une prothèse, c'est ça ?
Exactement, on remplace l'articulation abîmée. Alors le genou, c'est un petit peu. En fait, il y a plusieurs articulations dans le genou. Il y a l'articulation, on dit fémoro-tibiale, en gros avec l'os de la cuisse et celui bah, du tibia. Mais il y a aussi la rotule. Donc des fois, il y a des personnes, l'arthrose, elle est fémoro-patellaire, c'est-à-dire entre l'os de la jambe et la rotule. Au moment où ça glisse comme ça, entre les deux, ça frotte. Donc voilà, la prothèse, ça dépend vraiment de l'articulation abîmée. Mais ce qu'il faut retenir, sans entrer trop dans les détails, c'est que l'articulation abîmée, si ça devient un handicap, hop, on enlève, on switch, on met une prothèse.
On va parler d'une pathologie que je pensais complètement oubliée et pas du tout. Je pensais que ça vient du passé. C'est la goutte.
Ah bah ça vient.
Moi j'avais l'impression que c'était voilà.
Non, c'est très
début du 20e siècle et qu'après c'était terminé, que c'était lié à des habitudes de vie de gens qui mangeaient beaucoup de charcuterie par exemple, une alimentation très grasse et qui picolait un peu.
Il y a une actu sur la goutte d'ailleurs, il y a une actu, il y a un endroit du monde où il y a un nombre improbable de gouttes, de personnes qui ont la goutte. Est-ce que vous savez c'est où?
Un indice.
C'est très loin d'ici.
D'accord, donc ça doit être Nouvelle-Zélande.
Non mais on s'en rapproche quoi, c'est un peu plus haut, un peu plus à droite.
D'accord, il fait chaud là-bas?
Ouais, il fait chaud.
Tahiti?
Oui, exactement, Tahiti. Donc c'est un des endroits où il y a le plus de personnes qui ont la goutte, genre une personne sur cinq. Et du coup, il y a un chercheur lillois qui s'est arrêté sur le sujet. Et pour comprendre un petit peu, ils ont remarqué qu'il y avait vraiment une très grosse composante génétique dans le fait de développer la goutte. Donc ça casse un petit peu pas mal de mythes, C'est-à-dire qu'on disait vraiment la goutte c'est purement l'alimentation. Ben, en fait là on comprend, on va voir avec les études futures, mais vraiment qu'il y a quand même un terrain génétique très fort.
D'accord. Bon, alors la goutte pour tout le monde, qu'est-ce que c'est?
Ben, la goutte pour tout le monde, qu'est-ce que c'est? C'est un rhumatisme inflammatoire. Donc là on n'est pas sur l'usure de l'articulation, on est vraiment sur une maladie de l'articulation. À quoi cette maladie elle est due? Eh ben elle est due au dépôt de cristaux dans les articulations. D'où viennent-ils? Ce sont des cristaux d'acide urique. Et là on remonte encore un petit peu plus haut. Bah, d'où vient cet acide urique? Il vient de la dégradation de ce qu'on appelle des purines, qui sont en fait des composantes de certains aliments. Et on va dire les grandes familles. Est-ce que je les cite tout de suite?
Oui, non, mais c'est intéressant parce que là, on va pas vous faire une conférence là-dessus. Là, vous avez quand même annoncé quelques mots. Il faut souffler,
donc. En gros, la viande, les abats, c'est très riche en purines. Donc, viande, abats, crustacés, les fruits de la mer. Ça, c'est vraiment les grandes familles d'aliments riches en purines. On a aussi la bière. Il faut savoir que la bière, avec ou sans alcool, c'est vraiment le fait. C'est la bière en elle-même qui est très riche en purines.
De toute façon, la bière sans alcool, c'est de la bière qui est, qu'on a désalcoolisée. Hein.
Voilà. Bon. Du coup, la bière. Donc ça, c'est les grandes familles d'aliments vraiment qui, une fois dégradés, vous amènent à avoir un taux d'acide urique potentiellement élevé. Mais il faut savoir qu'il y a des aliments qui font augmenter l'acide urique, mais pas du fait de leur dégradation et tout. C'est des mécanismes chimiques un peu compliqués à expliquer. Ça interagit un peu avec le corps. Et par exemple, il y a quelque chose que les gens savent pas forcément, c'est les aliments riches en fructose. Et oui, le fructose. Le fructose, ça...
Alors, vous parlez du fructose des fruits ou du fructose qu'on rajoute dans certaines préparations, dans certaines boissons, dans certains sodas?
Bah, ça n'a pas de différence, hein. Fructose. Hein. Donc, vous consommez beaucoup de fructose. Donc, le soda, effectivement, ça va favoriser chez une personne l'augmentation de son acide urique, par exemple. Parce qu'en gros, ça interagit avec le foie, etc. Donc, les aliments riches en fructose, les sodas, tout ça, il y en a un peu partout. Hein. C'est fructose, c'est du sucre. Hein. D'accord. Et l'alcool aussi. L'alcool, hein, c'est un peu le même système que le fructose. Mais il faut retenir ça. Il faut retenir que ce n'est pas que les histoires de viande, de charcuterie, d'abats, de crustacés, de bière. C'est aussi l'alimentation très riche en fructose.
Alors, on parle de crise de goutte. Quels sont les organes qui sont touchés?
Alors, bah, du coup, ça peut être toutes les articulations, mais la grande reine, hein, la grande star de la goutte, c'est l'articulation du gros orteil. Donc, qui devient très rouge, très gonflé, tout chaud, ça brûle, ça fait extrêmement mal, vous posez le pied par terre, vous hurlez. Donc ça, c'est la crise de goutte classique. Donc c'est vrai que j'avais pas parlé trop des symptômes, mais c'est ça, hein, c'est vraiment douleur lancinante au niveau de l'articulation, gonflement, rougeur, chaleur. Ça peut toucher le gros orteil, mais en fait ça peut toucher le genou, ça peut toucher la cheville, ça peut toucher les doigts. Et est-ce que je parle des manifestations extra-articulaires? Ouais, j'enchaîne direct. Et bien du coup, par exemple, quelque chose de classique chez les personnes qui font de la goutte, c'est la peau. À force d'avoir des dépôts, ces dépôts d'acide urique dans les articulations, on peut les avoir aussi ailleurs. Et souvent sous la peau. Et ça donne ce qu'on appelle un tophus goutteux ou des tophies goutteux. Vous en avez peut-être déjà vu. Bon, on est à la radio, je peux pas trop donner de photos.
Alors tophus, hein, ça s'écrit pas comme vous imaginez, hein. C'est un peu compliqué.
Ouais, c'est T-O-P-H. US. Voilà, c'est pas si compliqué que ça.
Bah oui.
Eh bien, ça, c'est des gros cailloux.
Non, si vous voulez googler, hein, c'est pour ça que je dis ça. Tophus.
Ah oui,
goûteux,
tophus.
Ouais, tophus. Parce que si vous voulez voir à quoi ça ressemble, googlez, vous allez voir.
Ouais, Google Images, tophus, T-O-P-H-U-S. Et c'est des genres de petits cailloux blancs que vous allez voir de manière translucide sous la peau, souvent au niveau des articulations des doigts, souvent au niveau du pavillon de l'oreille aussi, ça se voit très bien au niveau du pavillon de l'oreille. Et il y a des personnes qui ont des toffis goûteux qui sont waouh. Vous voyez ça, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce caillou, ce rocher. Et une fois, je peux raconter une anecdote.
Mais ne demandez pas, Walid. Vous étiez ici chez vous à une époque, donc peut-être reprendrez-vous votre place.
Alors du coup, j'avais, il y avait un patient une fois à l'hôpital, je me souviens, qui avait des toffis goûteux partout, énormes, et il y en avait au niveau des coudes, donc vraiment l'articulation du coude. Et comme c'était une personne qui était pour X raison, voilà, vraiment dans un état compliqué à l'hôpital, alitée, elle avait commencé à faire des escarres. Donc les escarres, c'est quand ça se creuse au niveau de la peau sur les points d'appui. Et du coup, ça s'était creusé au niveau du tophus. Et du coup, j'ai pu voir sous la peau le tophus. Et vraiment, c'est d'acré, c'est de la pierre. C'est-à-dire vraiment, il y a votre corps, il y a une roche qui se forme, que ce soit dans vos articulations.
Mais en vrai, ça ressemble à une roche.
Ouais,
c'est ça
j'ai touché. C'était, je me suis dit, je vais toucher. Et c'est de l'acré. Vraiment, je fais, mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable.
Comment on mesure son acide urique? Le moyen de savoir.
Prise de sang, taux d'acide urique.
Ouais, c'est prise
de sang. Taux d'acide urique.
Ouais.
Après, il faut savoir que c'est comme l'arthrose avec l'histoire de la radio. C'est pas forcément corrélé au fait de faire de la goutte. Hein. Vous pouvez avoir un taux d'acide urique élevé et ne jamais développer de goutte. Donc, la goutte, faut se dire, c'est pas un chiffre, hein, sur la prise de sang. La goutte, c'est des symptômes. C'est vraiment si vous faites une crise de goutte. Si vous avez, vraiment, des articulations très douloureuses. Je parlais de la peau, juste, je dirais un dernier mot. On peut faire aussi des calculs au niveau des reins. Des petits cailloux au niveau des reins à cause de l'acide urique.
Ça fait mal, ça.
Ça fait mal.
Bien, le docteur Walid Mekedem est notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et nous parlons de motifs de consultation fréquents ce matin avec le docteur Walid Mekedem, médecin généraliste à Paris. Vous voulez la suggestion à un doc, hein. Pour aller chez le doc. Non conventionné.
Oui, bon, on va pas s'attarder sur.
Non, je le dis parce qu'au moins vous savez où vous allez. Hein,
ouais, exactement.
Après sinon, parce que sinon en commentaire on va se faire.
Oui, bien sûr. De toute façon.
Voilà. Ouais. Mais voilà, non conventionné. Mais ça c'était un choix de votre part. Hein, depuis plusieurs années, vous parliez de cette option dans votre.
Ouais, depuis
dans votre
plusieurs
pratique.
Mois. Hein, ouais. Plusieurs mois. Bah, on en a parlé en début là d'interview. Je vous ai dit comment s'est fait le switch. Enfin, que vous pouvez en parler pas mal, mais c'est vrai que au bout d'un moment, quand on est à son compte, il faut savoir bien gérer, faire les bons choix, et ceux qui vous, voilà, qui sont le moins contraignants pour vous aussi. Hein. Paris, c'est pas simple hein, quand vous êtes entrepreneur. Parce que je dis entrepreneur, oui, un médecin qui a son cabinet, c'est un entrepreneur. Hein. Voilà, il a ses charges et tout ça. Il faut que ça fonctionne, quoi. Pour pas.
On fera une mission sur le sujet parce que ça vaut une émission. On parlait de la goutte avant la pause. Comment est-ce qu'on la prend en charge la goutte? Qu'est-ce qui fonctionne pour...
Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien quand on est en crise? C'est un médicament qui s'appelle la colchicine.
Alors, on explique aux gens ce que c'est.
Oui, c'est une sorte d'anti-inflammatoire qui va permettre vraiment de calmer la grosse crise douloureuse. Mais faut savoir que colchicine VS anti-inflammatoire classique type naproxène, ibuprofène, ça se discute. Hein. Vraiment, c'est du cas par cas. La colchicine, quand même, il y a des médecins qui vont pas être trop chauds pour la prescrire parce que voilà, ça donne pas mal de troubles digestifs, ça peut donner de la diarrhée, ça tape quand même sur les reins. Faut faire le bon choix en fait en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Mais dans tous les cas, il faut donner quelque chose, hein, que ce soit colchicine ou anti-inflammatoire pour calmer. Après, évidemment, vous pouvez mettre sur l'articulation douloureuse de la glace, quelque chose qui fait un petit peu du bien. Et après, faut se dire comment on fait pour pas que ça revienne. Comment ça on fait? Donc, effectivement, il y a les mesures alimentaires, mais il y a aussi des traitements. Traitements de fond, si voilà, vous avez un terrain, vous faites souvent la crise de goutte, que vous avez un taux d'acide urique très élevé, vous faites la prise de sang, vous faites, ouh là là, c'est 3-4 fois la normale, là, donc je suis à risque d'en refaire. Bon, on met un traitement de fond. Donc, soit ce qu'on appelle l'allopurinol, soit ce qu'on appelle du febuxosta. En fait, c'est un comprimé tous les jours pour faire diminuer l'acide urique.
D'accord. Et là, sur combien de temps?
C'est du long terme en fait, hein. C'est-à-dire à réévaluer. Moi, je dirais que les médicaments, faut réévaluer régulièrement. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut prendre ça avec plusieurs années, comme on peut le prendre quelques mois, ça se discute. Il y a pas vraiment de règles. Il y en a qui vous diront c'est du long terme à vie. Moi, je suis pas trop pour ça. Je suis pour se dire que certes, à un moment donné, on en a besoin. On peut le prendre même pendant longtemps, et au bout d'un moment, on se repose la question de savoir est-ce qu'on en a toujours besoin.
On va parler des hernies.
Oui.
Ça, c'est un mot que tout le monde connaît à peu près, mais personne ne sait vraiment expliquer en quoi ça consiste, les hernies.
D'ailleurs, vous êtes un grand lecteur. On dit des hernies ou des hernies?
Des hernies.
Des hernies.
On dit des hernies, ouais.
Ok, des hernies.
Non, parce qu'on ne fait pas la liaison.
Ok, d'accord, des hernies. Non, mais parce que je dis des hernies. Non, je dis des hernies.
Ouais.
Ok, des hernies.
Bon, bah après...
Dites en commentaire, on dit des hernies ou des hernies?
Dans l'élan, on peut dire des hernies.
Okay.
Bon, on va parler des hernies. Il y en a de plusieurs types, hein, d'ailleurs, les hernies.
Ouais, sachant qu'il y a les hernies articulaires et il y a les hernies qui n'ont rien à voir avec les articulations. Si vous voulez, on en touchera un mot, mais parce qu'on peut dire j'ai une hernie inguinale. Et une hernie inguinale, ça n'a rien à voir avec les articulations.
Alors qu'est-ce que c'est justement? J'ai découvert ça, tiens, d'ailleurs.
Ah
c'est,
ouais,
je connaissais pas.
C'est ultra fréquent, l'hernie inguinale. Bah, en fait,
c'est quoi? C'est au niveau de l'estomac?
Non, c'est vraiment en bas du ventre, en bas sur la droite ou la gauche. À la jonction, on va dire, de certains muscles, on peut avoir une déficience musculaire. C'est-à-dire que les muscles, c'est comme un millefeuille. On a des superpositions, on a des chevauchements. Et pour peu qu'à un endroit, c'est pas bien fermé, qu'il y a un petit orifice, un petit trou, vous avez ce qu'il y a dans le ventre, le sac, il ressort, ça fait une petite boule. D'accord? Et des fois, la boule, on la voit pas parce que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Mais on sent une pesanteur, ça fait mal. Et du coup, ça, il faut fermer, le trou. Faut pas laisser une hernie.
Béante.
Ouais, parce que le risque, c'est qu'un jour, ça s'étrangle. C'est-à-dire qu'en fait, le contenu sort par le trou, mais c'est plus réductible. Et là, si ça se
coince. On peut pas revenir en arrière.
C'est une urgence. C'est une urgence parce que sinon, ça va nécroser. Donc, des fois, vous voyez des hernies inguinales impressionnantes. Je me souviens d'un monsieur, vraiment, vous regardez son ventre, il y a une boule. Donc vous dites, oh, c'est quoi ça? Mais en fait, il dit, non mais vous inquiétez pas, regardez, il fait ça avec ses mains, il jongle un petit peu avec et il remet la boule à l'intérieur du ventre. Donc hernie inguinale, très grosse mais non compliquée. Et du coup c'était prévu qu'il se fasse opérer pour refermer tout ça. Mais le risque, c'est qu'un jour, la boule elle est dehors et mince, je peux plus la rentrer. Et là, le sang ne circule plus, c'est la catastrophe, c'est une urgence, c'est une urgence.
Alors il y a les hernies, discales, hiatales.
Non, hiatale, ça n'a rien à voir aussi.
C'est des hernies pourtant.
Oui, en fait, hernie, je n'ai pas l'étymologie du mot, mais ça veut dire, j'imagine, une orifice qui laisse passer quelque chose.
Et ouais.
L'hernie hiatale, c'est au niveau de l'estomac. C'est-à-dire, vous avez le diaphragme, donc le muscle en dessous des poumons, qui sert un petit peu de toit à tout ce qu'il y a dans le ventre. Il y a forcément un trou pour que le manger va de la bouche jusqu'en bas. Mais ce trou, des fois, il laisse passer l'estomac qui est censé rester en bas. Et donc, l'hernie hiatale, ça peut être par exemple un facteur de risque de reflux, beaucoup de reflux. Mais rien à voir avec les articulations.
D'accord, reflux
gastrique, l'acidité.
RGO. Donc, alors vous voulez parler de quelle hernie?
Les hernies articulaires. Donc, les hernies, c'est principalement au niveau de la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale, c'est une superposition de cubes. Pas vraiment cubes, mais des vertèbres. Et forcément, c'est pas logique pour tout le monde, mais entre ces vertèbres, on a des petits coussins, des petits disques qui permettent, d'amortir, d'être mobile, de bien bouger, etc. Ce disque, au milieu, il y a un genre de noyau. Et des fois, pouf, ce noyau, il est un petit peu expulsé et ça fait une béance. Donc le disque n'est pas bien lisse, ça fait une béance, ça sort comme ça et puis ça peut appuyer, comprimer sur les structures adjacentes comme les nerfs. Et là ça fait très mal.
Alors les hernies peuvent être les causes de pas mal de douleurs.
Bien sûr.
Normalement les sciatiques.
Bien sûr, mais j'aimerais nuancer parce que là j'ai peut-être dit une bêtise. C'est pas que j'ai dit une bêtise, c'est que c'est vrai, une hernie ça peut faire très mal. Mais une hernie n'est pas égale à douleur. En fait, si on faisait des IRM à tout le monde là, je sais pas combien de personnes, on en retrouverait un gros pourcentage en tout cas avec des hernies, les gens diraient non, j'ai pas de soucis. Donc oui, non, la hernie n'est pas forcément symptomatique, mais c'est vrai qu'on peut avoir des douleurs. Voilà, au niveau des jambes, des douleurs de sciatique qui sont liées justement à une hernie discale. Donc, faut voir quoi. Faut voir les symptômes et faut faire ensuite un examen et voir un petit peu.
Elles peuvent être cause également de fameuses douleurs neuropathiques.
Oui, parce qu'en fait, ça comprime un nerf et du coup, après, ça peut vous donner des douleurs qui sont pas du type, je me suis cogné, j'ai mal. Ça peut donner des douleurs au type de brûlure, de fourmillement, de sensation, de décharge électrique. Donc, des douleurs. Et si elles se chronicisent, oui, ça peut être un enfer.
Quand faut-il se faire opérer d'une hernie?
Oula, alors la hernie, on ne se fait pas opérer tout de suite, parce qu'en fait, ça reste des grosses opérations quand même. C'est de la neurochirurgie ou de la chirurgie, on dit traumatologique, mais axée sur le rachis. Donc, on peut avoir les opérations sur le rachis lombaire, en bas du dos. Souvent, c'est quand même le truc assez classique. J'ai une hernie discale en bas du dos. Mais des fois, c'est au niveau du cou. ça donne des névralgies cervico-brachiales, c'est-à-dire des douleurs du cou liées à vraiment une sciatique entre guillemets du bras. Donc mon bras et tout, j'ai des décharges, des fourmis, je me réveille, j'ai le bras endormi, tout ça. Et là du coup on voit qu'il y a des hernies au niveau du cervical, mais vous faire opérer du rachis cervical pour décompresser des racines nerveuses, bon ça se fait hein. Ça se fait. Mais avant de le faire, on se dit, bon, il y a peut-être d'autres choses à tester. Donc, on reste sur les lasers classiques, l'activité, la kinésithérapie, certains traitements, des traitements parfois pour les douleurs neuropathiques, si vraiment on a des douleurs neuropathiques. Et en fonction du résultat, de l'impact, on opère ou pas. C'est vraiment, l'opération, c'est le dernier recours pour la hernie.
Je voudrais qu'on termine avec quelque chose, c'est la coiffe des rotateurs. Notamment la tendinite de la coiffe des rotateurs. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la coiffe des rotateurs
En gros, Valide. Il faut comprendre que si on enlève le bras de quelqu'un et qu'on regarde au niveau de l'épaule, on a plein d'insertions, finalement, de tous les muscles qui vont découler pour le bras. Hein. C'est-à-dire que, le bras, on n'a pas juste le biceps, le triceps, hein, on a plein de muscles, les muscles de l'épaule, etc. Et donc, il y a plein d'insertions tendineuses au niveau de l'épaule, parce que ça part sur le bras, mais ça part aussi sur, voyez, le côté du dos. Hein. Donc, les muscles qui sont sur le côté du dos, ils s'insèrent aussi à ce niveau-là. Et du coup, comme c'est vraiment un endroit de carrefour où il y a plein de mouvements différents, vous mettez le bras devant, levé, sur le côté, sur la gauche, sur la droite, en arrière, en fonction justement de votre activité, des mouvements que vous faites, vous pouvez avoir une lésion à un de ces endroits, qu'on appelle justement la coiffe des rotateurs, donc l'endroit où tous ces tendons s'insèrent. Et en fonction du geste qui est douloureux, on se dit « Ah, c'est ce tendon ». Qui est abîmé. Voyez. Bon, après, il faut confirmer par l'imagerie, mais d'accord. Des fois, avec un seul geste, on dit « Ah, je sais c'est où ».
Alors, qu'est-ce qui vous a fait avoir envie de parler de ça ? Est-ce que ça veut dire que c'est fréquent et que c'est quelque chose que les gens ne soupçonnent pas ?
Moi, je vais en parler parce que c'est ultra fréquent, en fait. Hein. C'est-à-dire, si ça vous arrive pas, vous n'en avez pas conscience ou connaissance, mais c'est quelque chose de très, très fréquent. Donc, les tendinites, tendinopathies au niveau de l'épaule, avec le grand classique, c'est le tendon qu'on appelle le supra-épineux. Donc, c'est celui qui vous permet de lever le bras comme ça. Et quand il y a des personnes qui ont des tendinites à ce niveau ou des ruptures, vous leur dites « lever le bras ». Chez certains, c'est possible, mais si je mets une contrainte, ça fait mal. Et chez les personnes qui ont une rupture du tendon, du supraépineux, je peux pas lever le bras en fait. Hein. Vous faites par rapport au bras d'à côté, c'est pas possible. Donc ça, c'est très classique, c'est très fréquent, c'est souvent lié à l'activité professionnelle.
Est-ce que depuis le télétravail, il y a de plus en plus de ou pas?
Non,
les gens sont mal posés chez eux pour travailler.
Je pense
qui se mettent n'importe où. Enfin voilà, ils ont une position qui est n'importe quoi et que ça développe pas mal de.
Ça développerait plus des douleurs au dos, des douleurs lombaires. Mais la douleur, la coiffe des rotateurs, la tendinite, c'est vraiment le travailleur. La femme de ménage, les boueurs. Celui qui travaille dans le bâtiment. C'est vraiment les travaux physiques, manuels, avec des gestes répétitifs.
Comment vous prenez en charge?
Alors sur nos stades de tendinite simplement, principal traitement c'est quand même la kiné, hein, d'accord. Avec peut mettre des médicaments s'il y a des grosses crises douloureuses, mais le principal traitement ça va être la kiné, la rééducation. Dans certaines indications, on peut faire aussi des infiltrations de produits à base de corticoïdes pour soulager justement la tempête qu'il y a au sein de l'articulation. Mais maintenant si sur l'imagerie on voit qu'il y a une rupture. Voilà, une lésion vraiment du tendon. Et que voilà, vous êtes une personne plutôt jeune. Et quand je dis jeune, c'est pas 25 ans. Quand je dis jeune, c'est 60 ans. Vous êtes bien, bien portant. Vous êtes pas encore à la retraite. Vous travaillez. Vous avez besoin de vos bras. Et vous avez une rupture du tendon. C'est la chirurgie. Et arrivé à un certain stade, c'est vrai, on se dit, le bénéfice-risque entre s'opérer de l'épaule et l'utilisation du bras, on va compenser plutôt par la kiné, etc. C'est pas forcément utile, la chirurgie. Mais en gros, une personne qui travaille et qui est en pleine force, et elle a besoin de ses bras. Donc, on répare, quoi. Quand il y a un bobo, on répare.
Allez, le docteur Walid Mekedem est sur Beurre FM. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube qui arrivera très très prochainement. J'en suis sûr, Doc. À Paris, maintenant, le docteur Mekedem. Donc voilà, si vous voulez consulter le Doc, vous pouvez maintenant dans son propre cabinet. Un peu cossu quand même, hein. Cossu, il y a du parquet. Non, cossu.
Ouais, il y a du parquet. Écoutez, je veux accueillir les gens dans un endroit confortable.
Il y a de la moulure, il y a du parquet, voilà.
C'est Paris hein, aussi. Hein. Franchement, Philippe,
faut il qu'on en fasse... a fait du chemin, le petit. Voilà.
Il faut qu'on fasse une vidéo sur justement les centres de santé, les cabinets libéraux. Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi mon choix? Franchement, je pense que je vais en faire une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, mais j'attends le bon moment parce que ça va faire du bruit. Je ne vais pas me faire des amis.
Bien. Bah non, c'est ça. Si vous n'avez plus d'amis, c'est mort, hein, docteur.
Je peux faire des amis. Mais à un moment, il faut lâcher les chevaux, il faut dire les vérités.
Bien, je viendrai les dire sur Beurre FM. Olib Mekedem, passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Beurre FM, la redil.
19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, merci de nous retrouver. Vous le savez, on démarre cette semaine avec vous pour commenter, démarrer, décrypter et analyser l'actualité. Alors vous le savez, oui, toujours comme d'habitude, hein, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes ici même. À la fois et d'abord au sommaire de cette émission, nous allons en direction Trappes où figurez-vous, ce week-end, eh bien une belle star s'est présentée pour inaugurer un cinéma dédié à Omar Sy. Omar Sy, il y avait du beau gratin, des stars, clochettes. Hein. Ah, c'est vrai, c'était une brochette de stars d'ailleurs qui sont venues se présenter pour inaugurer ce beau cinéma. Nous en parlerons avec le maire en personne qui sera avec nous dans une poignée de minutes. Ensuite, après les débatteurs influenceurs, eh bien, ils sont quatre aujourd'hui, qui vont s'emparer de la parole pour confronter leur point de vue. Rachida Kaout est avec nous, qui représente Renaissance, une personnalité qui représente les Républicains, c'est Jonas Haddad, ensuite l'élu local de Bondy, apolitique a priori, mais bon... Bah je ne sais pas ce que ça veut dire à politique. On a toujours une étiquette en général. Hein. Ou sans étiquette, ouais. Bon. Karim Alouache, il est financier. Par ailleurs, il est banquier d'affaires. À ses côtés, journaliste et entrepreneur, c'est Karim Maloum. Voilà, que du beau monde. Ensuite, vous avez vous. 01 53 48 3000. Vous êtes très très nombreux. Vous savez que les audiences sont là. Hein. Franchement, ça fait plaisir, partout en France. Ça vous fait sourire, Jonas Haddad.
Bah oui, moi j'aime bien les gens qui réussissent.
Ouais, c'est vrai. C'est
on
vrai.
Aime faut la réussite.
C'est soit on est là pour gagner, soit on est là pour évidemment...
Pour gagner quoi?
Non,
pour végéter.
Voilà, juste comme ça, pour voilà, par exemple.
Pour exister.
Moi je dirais pas ça, mais juste...
Il y a beaucoup d'audience.
Ah, exactement. Bah oui, on est doux.
Donc
c'est
vraiment
c'est pas n'importe quelle émission non plus.
Hein. Oui, ah, là tu sais.
C'est pas n'importe quelle, c'est le modérateur aussi.
Ah là là, on va poursuivre le sommaire. Michel, merci. Michel Taube, tout à l'heure, qui sera avec nous à 19h50. Il est éditorialiste, mais il est également aussi le directeur fondateur d'Opinion Internationale. Il sera avec nous, il va nous livrer, vous savez, son regard comme chaque lundi. Son billet d'humeur, ça s'appelle. Et il sera avec nous tout à l'heure pour nous parler, évidemment, de Glucksmann, qui, selon lui, va tout déchirer. Clochette. Aux européennes, je parle. Bah écoutez, les paris sont lancés. C'est possible. Hein, il fait pari.
Mais par contre, il a un adversaire, c'est son secrétaire général de Parti Socialiste, Olivier Faure, qui s'oppose à lui.
Bon, voilà. Et surtout Jordan Bardella. C'est surtout ça. Et les derniers sondages que j'ai reçus par mail, qui sont encore sous embargo, mais je crois que c'est sorti. Jordan Bardella, les amis, ça fait mal. Hein. Il est loin devant Renaissance, Rachida Kaout.
Oui.
Très loin.
Très loin.
C'est les statistiques.
Ça fait
flipper.
Le chiffre du PS, mais à l'envers, inversé.
C'est les chiffres, si
sacre,
vous voulez, à un moment T, mais après maintenant,
qu'est-ce
les chiffres,
faire, hein, votre,
qu'est-ce qu'on
votre
a pris comme référentiel
là, Emmanuel Macron, là, il... Non, il n'est pas en panique, là, non?
Bah, pourquoi paniquer?
Quand on voit Jordan Bardella, c'est pas en tête, là, c'est en tête très loin.
Mais oui, c'est un candidat de communication, c'est un candidat pour la com, en fait. Bah, c'est pas un candidat pour des idées politiques, ni un programme politique.
C'est pas juste, aussi.
Ouais, mais bon, Rachida,
c'est pas juste l'échec pour la com, il y en a un
public. On en parlera.
C'est aussi l'échec des républicains et des socialistes aussi.
Mais les républicains se cherchent encore. Jonas Haddad, je sais pas ce qui se passe chez vous, mais.
Enfin, on se cherche encore, mais pour l'instant, on se maintient dans les sondages que vous évoquez.
Si
je compare, vous voyez, quand on se regarde, on s'inquiète, mais quand on se compare, on se console. Quand je vois ce que fait ce monsieur Zemmour, moi je suis assez content de voir que son parti est en train de s'effondrer.
Oui, mais quand on voyait le score que donnait les
Monsieur, Zemmour, on en parle tout à l'heure. C'est parti, c'est tout de suite, c'est l'interview du jour.
Les informés.
L'interview.
Ah, ça y est, on leur donne le. Vous savez, les politiques, on leur donne le micro, ils se lancent. Hein. On est avec, vous savez quoi?
C'était bien parti. Hein.
On est heureux de l'accueillir. Ah oui, c'était parti, c'est ce que je dis. On est heureux de l'accueillir. C'est le maire de Trappes, dans le 78. Bonjour, monsieur Ali Rabé. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour, monsieur Parkham.
Comment ça va? Vous allez bien?
Ben, très bien, merci de m'inviter.
Ben, merci. Qu'est-ce que vous pensez de. Je sais pas, de, vous n'êtes pas là pour ça, mais qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance? On en parlait pendant le micro, en attendant de vous accueillir justement en direct. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance européenne, là, les élections? Qu'est-ce que cela vous inspire, mon cher maire?
Ouais, c'est étouffant. Écoutez, on a plus d'un Français sur deux qui se contrefout cette élection et qui ne s'apprête pas à aller voter. C'est déjà la première inquiétude qu'on devrait tous partager. C'est une forme de désintérêt des Français pour la démocratie, pour l'élection européenne en particulier. Le second élément, c'est évidemment, vous l'évoquez à l'instant, le fait que le Rassemblement National et la figure de Jordan Bardella submergent cette élection. On est quand même à des pointes à plus de 30%. On est à 32 là dans les
c'est
derniers
ça.
Sondages que vous
c'est
évoquiez.
Ça. C'est ça.
C'est concomitant avec les élections qui nous indiquent des fonds. Que Marine Le Pen serait en mesure en 2027 de remporter tout simplement le deuxième tour de l'élection présidentielle, quel que soit le candidat face à elle pour l'instant. Donc c'est un climat qui, pour le maire populaire que je suis, est extrêmement inquiétant, puisque face à cette offre qui a le mérite d'être claire, hein, même si elle n'est pas sérieuse et qu'elle est inquiétante,
l'écart qui se creuse, hein, moi j'ai le dernier sondage là, je l'ai sous les yeux, je l'ai reçu par mail, l'écart qui se creuse, 12 points entre le Rassemblement National et Renaissance.
Absolument.
C'est énorme, 12 points.
Ça dit quelque chose énorme. Du rejet massif, ça dit quelque chose du rejet massif vis-à-vis de la politique du chef de l'État, puisqu'il est président maintenant depuis, rendez-vous compte, 9 ans, presque 10 ans. Mais ça dit aussi quelque chose de l'incapacité à proposer d'autres alternatives. Et moi j'en veux beaucoup à mon camp politique, à la gauche, de ne pas être capable de s'organiser, parce que unis, nous aurions à peu près le même score que l'extrême droite, la même force politique au sein du pays, mais notre unité est l'une des conditions de la crédibilité de notre projet, et il faudra la réaliser après ces européennes, puisque à l'occasion de ces européennes, elle n'est manifestement pas possible.
Vous parlez de la gauche, mais visiblement, je crois que Raphaël Glucksmann réussit plutôt son coup, ou on a le sentiment, monsieur le maire?
Franchement, à quoi bon? Enfin, moi, je suis pas très fan, je vous le cache pas, mais 14% ou 12% ou 11% dans certains sondages, j'appelle
c'est
pas
vrai.
Ça à réussir son coup.
C'est vrai.
C'est, la question, c'est les équilibres.
C'est vrai.
Vous savez, Yannick Jadot, il avait fait 14% à la dernière élection, il s'était vu président de la République, on a vu la suite. Cohn-Bendit et Vajoli, un peu plus longtemps pour les vieux comme vous et moi, avaient fait 20% aux élections européennes pour les Verts, et on a vu la suite.
On va parler, vous savez quoi, vous avez raison, et merci d'avoir répondu à évidemment cette question. Vous êtes notre invité aujourd'hui parce qu'on va parler du cinéma Omar Sy qui a été inauguré ce week-end, samedi précisément, sur la ville de Trappes, d'accord, dans les Yvelines, en présence de l'acteur, en présence de Jamal Debbouze, en présence de sa femme. Hélène, en présence évidemment de personnalités tout simplement politiques mais aussi autres qui étaient présentes, dites-moi d'abord, c'est tout un symbole pour les habitants venus en nombre, parce que j'ai vu que vous étiez très nombreux, ils sont venus répondre présents pour assister à l'inauguration.
Ouais, ça c'est autrement plus réjouissant, hein. On était près de 1000 personnes à l'Assemblée là sur la place. Ça y est, il a plu toute la journée. On a eu un rayon de soleil dans la journée, le moment de l'inauguration. Il y a des petits miracles comme ça. Et un millier de personnes se sont massées. On peut assister à des séances gratuites, hein, de cinéma toute la journée autour de l'œuvre d'Omar Sy, et le lendemain dimanche autour de l'œuvre de Jean Renoir, qui est également une grande figure du cinéma français. Et la surprise, c'était évidemment la présence d'Omar Sy et de Jamel Debbouze aussi, qui est venu assister à ce moment important, symbolique. Qui est mouvant pour son ami d'enfance, Omar Sy. On a, vous savez, à Trappes, une petite commune, 33 000 habitants, on a plein de richesses, contrairement à ce que le débat médiatique parfois peut laisser voir. Et on a ce petit miracle dans une ville de 33 000, comme il y en a beaucoup d'autres en Ile-de-France. Eh bien, nous, on a fait émerger des figures artistiques, culturelles, sportives, en nombre extravagant pour une commune de cette taille. Et parmi eux, Omar Sy et Jamel Debbouze, mais pas que, hein, Sofia Rahm, Issa Doumbia, Nicolas Anelka, vous voyez, plein de figures. Alain Degois, Rachid Benzine, enfin autant de figures intellectuelles, artistiques, politiques qui font rayonner Trappes, et ce sont des ambassadeurs de Trappes. Et Omar Sy en particulier, on apprend aussi, on a appris hier qu'il était jury du festival.
On a perdu.
C'est extraordinaire comme trajectoire pour un gamin d'une cité de Trappes.
On a été coupé légèrement, il y a une micro-coupure. Jury du festival de Cannes, j'imagine, vous disiez, hein, c'est ça, hein.
C'est ça. Ouais. Alors, merci. Jury du festival de Cannes au moment où on se parle, ce qui montre un peu la trajectoire absolument extraordinaire de cet enfant d'un square de Trappes, d'une cité de Trappes, qui maintenant brille à travers le monde, qui est connu dans le monde entier. Là, il est également connu au Japon.
Qu'est-ce que ça représente justement pour les habitants des quartiers populaires? pour les jeunes notamment.
Une fierté et un espoir. Vous savez, il y a tellement de raisons d'être pessimiste, tellement de raisons de baisser les bras parfois quand on voit l'hostilité, une forme de climat de haine qui est entretenu contre les habitants des villes populaires comme Trappes, qu'on peut se poser la question de sa place, de sa légitimité. Je suis maire de Trappes, je porte l'écharpe bleu, blanc, rouge, et parfois moi-même je me pose la question tellement cette violence politique qui nous est adressée est injuste et médiatique. Et quand on a des figures de rassemblement comme Omar Sy, vous savez, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit blanc, noir ou arabe, ou musulmans ou sans religion, etc., voilés ou pas voilés, tout le monde était massé pour honorer Omar Sy. C'est une figure consensuelle, c'est vraiment une figure de la République française qui rayonne dans le monde, comme d'autres avant lui, comme d'autres après lui. Mais on en est fiers, c'est l'enfant de Trappes et c'est maintenant l'enfant du pays, l'enfant de la France, et il nous honore. Et on a voulu l'honorer à notre tour, en nommant le cinéma de la ville d'après son nom. Et je crois que c'est un beau symbole. Vous savez, en France, et je l'ai dit aussi en conclusion de mon discours, on n'a pas beaucoup de noms de rues, de noms d'édifices publics qui viennent honorer des trajectoires différentes qui font la richesse de ce pays. On a souvent les mêmes noms, on retrouve les mêmes noms de rues d'une ville. Parce qu'on a voulu justement, c'est l'art de, vous savez, on appelle ça l'autonomie, c'est comment est-ce qu'on nomme nos rues, nos places, nos bâtiments. Ben, on a voulu que ce soit aussi une traduction de la reconnaissance que la République, ici la République au niveau municipal, mais la République a pour tous ses enfants, d'où qu'ils viennent, et d'où que viennent leurs parents surtout. Omar Sy, moi, vous, probablement, on est nés en France. On est des Français, indéfectiblement, on ne l'enlèvera pas, quoi qu'on en dise, et on est des Français, et c'est bien que nous, on reconnaît la France naturellement, puisque c'est notre pays et notre patrie, mais de temps en temps aussi, c'est important que le pays, ses communes, reconnaissent les enfants de la République. Et nous, on a considéré qu'il n'y avait aucune raison d'attendre le décès d'Omar Sy pour l'honorer. C'est de son vivant qu'on a voulu le faire. Et il a dit que la boucle était bouclée, qu'il avait commencé très jeune, il avait découvert le cinéma avec ce cinéma municipal. Et aujourd'hui, il lui donne son nom, donc il a le sentiment d'une forme d'accomplissement qui mérite d'être honoré et qui servira, j'espère, quelque part d'exemple à d'autres gamins qui grandiront en passant devant ce cinéma et en franchissant ses portes.
Je n'en doute pas un instant, effectivement, ça peut que servir d'exemplarité auprès des gamins et des jeunes des quartiers populaires, effectivement, vous l'avez dit. Écoutez, bravo pour ce cinéma qui a été inauguré par Omar Sy, et c'est un week-end d'ailleurs. Merci monsieur le maire, vous avez un message adressé à ceux qui nous écoutent, notamment en parlant de messages d'espoir.
En conclusion, on ne sera pas tous stars internationales du cinéma, on ne sera pas tous forcément connus à la télévision ou des vedettes, mais par contre, on peut tous être médecin, ingénieur, pompier, boulanger, on peut tous avoir son parcours de réussite personnelle. Et la réussite, ça se définit pas par le nombre d'années de diplôme ou par le nombre de followers sur Instagram, mais c'est l'accomplissement en choisissant sa vie, en ne la subissant pas. Donc il faut ouvrir des fenêtres d'espoir, voilà, d'opportunités pour tous les mômes, et en particulier pour les mômes. Quartier populaire, on s'y attelle, et même ceux qui en prennent plein gueule toute la journée, qui en ont marre, qui parfois dépriment, gardez de l'espoir. Ce pays, il est magnifique, il ouvre des opportunités, il faut qu'on change ensemble. Et à la fin, c'est ni M. Bardella, ni M. Zemmour qui gagneront, c'est nous, parce que c'est nous la France.
Merci pour ce message d'espoir, M. Ali Rabet, maire de la ville de Trappes dans le 78. Merci, M. le maire, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
C'est un plaisir, au plaisir de vous retrouver. C'est parti pour le face-à-face.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Je commence par la seule femme qui est avec nous. Elle est élue sur Ivry, sur Seine. Elle est également la représentante de Renaissance. Donc prudence à vous tous, hein, dans ce que vous allez raconter. Je vous le dis tout de suite. Hein, parce qu'elle, elle ne se laisse pas faire. Elle s'appelle Rachida Kaou. Bonjour Rachida.
Bonjour, bonsoir à tous.
Ça va.
Je voulais réagir sur ce qu'elle dit, monsieur le maire de Trappes.
Allez-y. Il est parti là, ça y est. Hein, mais allez-y, réagissez.
Mais vraiment, il a bien tout résumé. Et en même temps, ce n'est pas une histoire d'appartenance à un parti politique ou à un autre. Ce que je veux dire, c'est que si tous les maires de France raisonnaient comme lui, honnêtement, on avancera énormément sur...
Le maire de Saint-Ouen, il est comme ça aussi.
Oui, mais que ça se diffuse vraiment de manière massive. Mmh. Ça évitera d'avoir ces montées, justement, des partis d'extrême droite, et puis aussi de tous ces manipulateurs qui montent les populations les unes contre les autres. Donc, je voulais vraiment rebondir sur ce qu'il a dit, et dire qu'en réalité, il faudrait que tous les élus de France, tous les maires de France, diffusent ce message et mettent en valeur des gens issus de
l'immigration. Monsieur le conseil régional, qu'est-ce que vous avez... Pourquoi vous faites... vous allez à mitiger...
Elle a raison, mais parce qu'en fait, derrière tout ça, il faut quand même nos auditeurs le sachent. D'abord, M. Rabet, c'est bien, il fait de la politique, il est issu de la gauche. Et le message est intéressant, mais ce que vous dites est pertinent, et c'est pour ça que j'y souscris. Vous dites, il faudrait raisonner comme lui. Raisonner comme lui, moi, ça ne me dérange pas. En revanche, quand on regarde ce qui se passe et qu'on ouvre le couvercle de ce qui se passe à Trappes, il ne faut pas que l'arbre Omar Sy cache la forêt, quand même, de la dégradation de cette ville, de la communautarisation qui se passe. passe dans cette ville, du fait qu'il y a des taux de pauvreté qui sont incroyables, et j'irai même plus loin, du fait que la gauche a mis sous une forme de coupole de misère des gens qui se trouvent dans ces quartiers-là. Et d'ailleurs, si vous regardez bien l'histoire de la gauche dans ces endroits-là, là, je suis content parce qu'au moins Omar Sy, bon, Omar Sy, c'est un Français. Mais avant, vous aviez des boulevards Lénine, des boulevards Staline, des endroits dans lesquels le Parti communiste tenait sous sa coupe des endroits entiers et qui ont fait que ces endroits ne se sont pas développés. Donc c'est bien. Les symboles, c'est intéressant. Dans la vie, il n'y a pas de sujet. Donc vous avez raison, peut-être que sur le raisonnement, c'est intéressant. Mais la réalité du bilan de ce maire-là.
Il n'est pas communiste, lui. Il est plutôt de gauche.
Non, je suis. Ouais. Même bien de gauche.
Ouais.
Voilà. La réalité, c'est que ces endroits-là se dégradent et que la belle diversité et la belle richesse culturelle qu'il évoquait, ben, elle a maintenant 30 ans. Parce que Marcy, il n'est pas tout jeune. Et Jamel Debbouze, il n'est pas tout jeune. Nicolas Anelka, il a 40 ans. Et les Nicolas Anelka d'aujourd'hui, les Jamel Debbouze ou Léo Marcy, attrape, je pense que ce serait plus compliqué.
Non, mais c'est un problème de société aussi, ouais, ce que vous décrivez.
Oui, bien sûr, ouais, un véritable.
Il n'a aucun pouvoir.
On fait un tour de table. Karim Malouache, bonjour. Il est banquier d'affaires, mais il est également aussi l'élu de Bondy. Bonjour.
Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, je voulais rebondir sur ce que j'ai entendu.
Oui.
Ça me fait un peu sourire de critiquer les communistes. Moi, si j'ai le parcours que j'ai fait aujourd'hui, c'est grâce à eux, Aubervilliers. Alors, c'est pas ceux d'aujourd'hui, effectivement, parce qu'ils nous ont apporté l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'accès au voyage, la gratuité sur tout ça. Et si j'avais pas rencontré ces gens-là, gamins, je pense que j'aurais pas le même parcours. Maintenant, ce qui m'intéresse dans le discours, c'est j'entends. On est toujours content quand quelqu'un de la diversité, c'est un footballeur ou un acteur. Mais ça, c'est pas la vraie vie et c'est plus exceptionnel. Vous avez plus de chances de faire une grande école que de devenir une star du cinéma ou du football. Ce qui, il faudrait un peu songer à mettre en valeur, y compris pour les partis politiques,
qui
le font très rarement, les personnes qui ont des parcours normaux, éducatifs, qui font des carrières et qui agissent dans leur quartier.
On le fait régulièrement. Karim Malou, bonjour.
Le discours, il parle d'une pratique, d'une certaine gauche, mais c'est une gauche républicaine, laïque, sociale, humaniste. Mais la gauche d'aujourd'hui, elle n'est plus, elle est communautariste, une grande partie, elle est communautariste, elle est racialiste. Et les gens qui habitent dans ces quartiers, il faut aller les voir, c'est pas vrai. Le trafic de drogue domine, il y a de la violence, il y a beaucoup de choses, les gens quittent les quartiers. Donc il faut dire qu'il y a la paupérisation dans ces quartiers. Donc c'est beau de dire qu'on a un message d'unité et développé. Mais quand il faut faire l'union de la gauche, moi je ne ferai jamais l'union de la gauche avec la gauche Hamas, avec les gens qui soutiennent, qui considèrent que la Hamas est un mouvement de résistance, qui demande à faire l'intifada en plein Paris, il demande à la guerre civile. Non, on n'a pas d'alliance à faire avec ces gens-là.
De Trappe, est-ce qu'il y a une seule des personnes qui l'a cité qui vient encore à Trappe?
Aucun.
Qui se pose la question?
Aucun.
Bonne question, mais peut-être leurs parents. Les parents, peut-être.
Ouais.
Les parents,
oui, les peut-être familles avoir. Sont toujours là.
On lance une pause et on se retrouve tout de suite après, justement, pour lancer les débats.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la redille. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les Informés, je vous le disais tout à l'heure, avec Rachida Kaout, avec Jonas Haddad, avec Karim Maloum et enfin Karim Alouach. Messieurs, mesdames, madame, messieurs plutôt,
oui.
Nous allons parler de Sciences Po. Alors, Sciences Po qui dit clairement aujourd'hui, on demande la justice pour la Palestine et on nous envoie la police. Les manifestations, les rassemblements pro-palestiniens, beaucoup réagissent, ça fait beaucoup de réactions. Et alors, certains aussi que disent, mais attendez, c'est l'histoire aussi de Sciences Po, c'est toute une symbolique, c'est la symbolique de Sciences Po, ça s'est toujours inscrit dans l'histoire, ça date pas d'aujourd'hui. Rachida Kaout, parlons-en, tiens, à vous la parole.
Oui, aujourd'hui, moi je vais le répéter, ce que je déplore c'est l'importation. L'importation finalement d'un conflit où je suis persuadée que si on interroge ces étudiants, eh bien ils ne savent même pas quelle est l'origine même du conflit israélo-palestinien. Et c'est ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est ce qui m'interpelle. Non, c'est pas une histoire d'idées en fait. C'est ce qui m'interpelle et c'est ce qui est en même temps un danger. Parce que moi, des lieux comme Sciences Po ou des universités lambda, ce sont des lieux où on débat. Ce sont des lieux où on échange. Ce sont des lieux où on essaie de comprendre qui est l'autre.
Mais il n'y a pas de débat, Sciences Po.
Et ce sont. Mais justement, ce sont des lieux. C'est ce qu'ils devraient devrait y avoir. Ouais. Ce sont des lieux où l'élévation intellectuelle en fait apporte des solutions. Et moi aujourd'hui, je refuse.
Parce que juste la classe politique a réagi.
D'avoir, si vous voulez, des étudiants qui sont, pour moi, à mon sens aujourd'hui, manipulés et qui, vous savez, quand j'étais étudiante à l'université, on avait exactement aussi ce fameux conflit israélo-palestinien. On avait aussi ces manifestations de boycott. J'étais à la Sorbonne, donc on avait les bancs de la fac.
La Sorbonne,
qui
connaît ça aussi, la Sorbonne.
Oui, bien c'est sûr, vrai, on a vécu ça. Mais en même temps, ce que je peux dire, c'est que c'était différent.
C'est pas du tout la même chose.
Oui, c'était différent, mais on débattait et on essayait de comprendre en réalité c'était quoi le problème.
Comparer la Sorbonne à Sciences Po, c'est pas la même culture.
Vous comprenez toujours pas ce que c'est le problème.
C'est pas la même culture.
Je peux vous donner un scoop à dire.
Non, mais c'est important à dire ça.
Ah oui, bien sûr, Jonas Sadat.
À part les élus de la France Insoumise, il y avait un seul autre élu qui allait physiquement devant Sciences Po, c'est votre serviteur. Et je me suis rendu à Sciences Po vendredi soir.
Ah.
Avec mon écharpe de la région, parce que je voulais comprendre ce qui se passait.